Et il y avait un mur. C'était vraiment presque impossible à cette époque-là, en tout cas, de sortir ou même coucher avec un autre Asiatique parce qu'il y avait cette récurrence de propos. C'est ah ben non, c'est du communautarisme.
Le bazar.
Le bazar.
Bienvenue dans Joyeux Bazar, le podcast de la double culture. Je suis Alexia Sena et je suis très fière de vous annoncer que Joyeux Bazar a été récompensé au Paris Podcast Festival. D'ailleurs, si vous aussi vous appréciez ce podcast, eh bien, c'est le moment de laisser des étoiles ou un commentaire dans votre appli. À part ça, eh bien, c'est parti. Ce matin, nous sommes au studio d'enregistrement de la Gaîté Lyrique, établissement culturel de la ville de Paris, et j'ai deux nouvelles, évidemment une bonne et une mauvaise. La bonne nouvelle, c'est que je reçois Jean-Baptiste Fou, français de parents sino-cambodgiens, artiste pluridisciplinaire et désormais auteur de ce superbe livre qui s'appelle « La peau hors du placard, asiatique et gay, une vie de lutte ». La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai 4 pages de questions, donc je ne sais pas comment on va faire. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Alexia.
Alors, on va plonger, vu que j'ai 4 pages de questions, on va plonger assez rapidement dans le vif du sujet. Ce que je t'ai dit d'ailleurs déjà, le livre, je trouve, est écrit avec un style hyper direct. C'est très rapide, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, c'est simple, c'est dépouillé, c'est assez frontal. Et en le lisant, dès la première page, j'ai eu une impression, moi, de vitesse et d'urgence, ou en tout cas de recherche d'efficacité, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas de temps à perdre, on pose les choses, on dit tout de suite comment elles sont. Est-ce que c'est juste moi dans ma tête ou est-ce qu'il y avait une urgence à écrire ce livre-là ?
Je pense que c'est un peu mon style en tant qu'auteur. D'accord. D'avoir d'aller dans une espèce de comme tu disais d'épurement, d'efficacité, de simplicité. Ça demande aussi beaucoup de travail finalement, la concision, arriver à être précis dans ce qu'on dit avec peu de mots. Enfin voilà, moi c'est quelque chose que j'essaye de faire en tout cas dans ma pratique, que ce soit cette œuvre-là ou pour d'autres œuvres. Mais c'est vrai que pour celle-ci en particulier, oui, il y a une urgence comme tu disais, parce que c'est pour moi c'était un peu me pencher sur mon parcours et essayer de le livrer avec le plus de sincérité possible, sans artifice, en fait. Voilà, un peu, le titre, c'est « La peau hors du placard », c'est vraiment ça, c'est de se mettre à nu, c'est sortir des apparences et puis tomber le masque, et voilà, c'est ce que j'essaie de faire.
Oui, c'est marrant que tu parles de tomber le masque et que tu parles de sans artifice, parce qu'effectivement, ce que je me suis dit, c'est il n'y a pas de fioriture, mais au sens, enfin, tu vois, ça ne veut pas dire que c'est moche parce qu'on n'a pas mis de décoration, ça veut dire qu'il y a juste ce qu'il faut et qu'on n'a pas rajouté d'autres trucs juste pour que ça brille et que ça fasse bling bling comme ça, tu vois. Alors, la première phrase du livre, c'est « Tu te marieras avec une femme chinoise ». C'est une phrase affirmative, il n'y a pas de point d'exclamation ou de point d'interrogation, c'est très clair, tu vois, c'est bam. Donc une phrase que ta mère a prononcée régulièrement tout au long de ta vie et qu'elle a commencé à prononcer quand tu as une dizaine d'années à peu près. Et la dernière phrase du livre est « Ma mère se tourne vers moi et murmure « Il serait temps de penser à avoir des enfants maintenant. Les enfants, c'est ça le véritable bonheur. »
Et ouais, même pour moi, c'était important d'ouvrir et de conclure avec des paroles de ma mère pour aussi montrer le cheminement entre ce qui se dit par des mots, mais c'est pas simplement ces mots-là, parce qu'ils sont importants, ils sont forts, c'est des mots simples. Donc au début, moi, je prends ça effectivement comme une injonction, finalement, une imposition de qu'est-ce que la norme, qu'est-ce que sera ma vie, ce modèle hétéronormé, traditionnel, une femme et en plus chinoise.
Ah bah oui, c'est très clair. Hein, le cadre est vraiment serré là, pour le coup. Tu peux pas dire que tu n'avais pas compris, quoi. Franchement.
et puis après, l'évolution, parce que je raconte dans le livre, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais voilà, le coming out, la difficulté que ça a pu être. L'évolution qu'il y a eu dans nos rapports. Et puis cette phrase-là qui conclut, qui est pour moi, alors je ne veux pas trop spoiler, mais voilà, c'est un peu comment ça se dénoue aussi entre ma mère et moi sur cette question-là.
Bien sûr. Moi, je trouve qu'il y a un sous-texte dans cette dernière phrase. Il y a vraiment, les enfants, c'est le véritable bonheur, et je te le dis pour te dire que ce serait bien pour toi que tu en aies, mais la personne qui te dit ça est ta mère et tu es son enfant. Donc, il y a aussi ce sous-texte que moi, j'entends comme un « je t'aime », en fait, comme tu as des sœurs, donc vous êtes mon bonheur, vous êtes mon véritable bonheur. Enfin, moi, j'en ai des frissons, tu vois, je l'ai trouvée super, super forte, cette phrase. Et sur la question de tes parents, je trouve qu'il y a à la fois une absence autour de ces questions-là, c'est-à-dire que quand tu poses le coming out, ils ne savent pas comment réagir. on sent, tu en parles de temps en temps de ta famille, en tout cas de tes parents, et on sent que voilà, chacun a adopté sa stratégie. Ton père, ça n'existe pas, il sort. Et ta mère, elle est là, mais elle fait comme si de rien n'était, comme si elle n'avait pas entendu le
déni.
Truc.
Et puis la femme chinoise qui revient régulièrement.
Voilà, qui revient quand même pour te dire, crois pas que je t'ai oublié, gars. C'est pas parce que je dis rien que, hein, on est d'accord que l'objectif, c'est toujours ça quand même. Donc, il y a à la fois, voilà, sur cette question, enfin, centrale en tout cas dans le livre, de cette double identité gay asiatique, tes parents, voilà, absents, ils sont pas dans le game, quoi, ils sont pas dans la conversation. Et en même temps, il y a plein de moments clés où ils sont présents.
Il y a ce rapport très complexe avec mes parents. Donc là, j'en parle, c'est un peu une toile de fond. Tu vois, ils sont là, ils ne sont pas là. Mmh. Je ne voulais pas, comment dire, leur donner plus d'importance dans ce livre. Parce que pour moi, c'était un petit peu... Justement, j'essaie de m'affranchir de certaines choses. J'ai pris mes distances, en fait, très tôt. Justement pour fuir un peu cet environnement que moi, je trouvais oppressant, qui était à la fois la maison... Mais pas seulement la maison, c'était aussi tout l'environnement de la cité où je vivais. Enfin, c'était un peu tout ça. C'était, je dois partir le plus loin possible. Et finalement, la vie fait que on revient toujours un petit peu de là où on vient.
On ne guérit pas de son enfance, on ne guérit pas des quartiers qui nous ont vus naître. Je parlais de ce coming out donc, que tu fais auprès de tes parents. Tu prends ton courage à deux mains. Et tu dis, je pensais que ce serait comme dans les familles blanches.
Je pense que c'est quelque chose que j'avais plutôt fantasmé, parce qu'à cette époque-là, j'avais, j'avais 15 ans, c'était les années 90. Ouais. Il n'y avait pas encore tellement de séries ou de films. Mais c'est vrai que moi, le modèle que j'avais, c'était plutôt les feuilletons américains. Comme tu disais, c'était « Ah, we love you no matter what ». Enfin, tu vois, c'était ce genre de truc que je fantasmais dans ma tête, en me disant « les sociétés occidentales sont tellement plus tolérantes, avancées sur ces questions ». D'ailleurs, si je le fantasmais comme ça, c'est aussi parce que la société, c'est comme ça qu'elle voulait se représenter aussi. Donc, elle donnait cette image, en tout cas les sociétés occidentales, de avancer sur ces questions ouvertes, tolérantes, etc. D'ailleurs, tu en parlais dans l'épisode avec Sylvie, Sylvie Lee, que tu avais reçu. Et c'est vrai qu'il y a toujours cet imaginaire-là, notamment en Occident et en France, où on s'imagine que dans les pays... du Sud, avec plein de guillemets.
C'est ça.
Là-bas, c'est des sociétés traditionnelles, conservatrices, arriérées, oppressives. Alors que moi, je vis au Cambodge. Enfin, moi, je vis là-bas concrètement depuis 7 ans. Et je peux affirmer que là-bas, en tout cas, moi, comment je le vis, c'est hyper paisible, en fait. La société, en tout cas d'apparence, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence, qu'il n'y a pas de discrimination, évidemment. Mais en tout cas, au quotidien, il n'y a pas d'hostilité.
C'est important de le dire, de partager cette expérience-là. Merci. Non, mais c'est vrai, parce qu'on va à rebours des discours dominants. Et effectivement, Sylvie Lee, autrice française d'origine chinoise, Tichou, et lesbienne que j'ai reçue dans le podcast et qui parle très bien de cette question-là, des représentations qu'on a souvent européo-centrées, de la manière dont ces questions-là sont traitées ailleurs. Alors, on va parler de rejet. On avait un peu commencé, mais tu te découvres une attirance pour les garçons assez jeunes. Et du coup, tu expérimentes aussi le rejet assez jeune, les moqueries, mais aussi même avant même que la moquerie n'arrive, la hantise de ce regard-là, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que la personne a perçu sur moi, etc. Il y a une phrase, il y a 1000 phrases dans le livre qui m'ont bouleversée, mais j'aime beaucoup celle-ci. Tu dis, même si la peur est l'un des ressorts de leur aversion, celle qui colle au ventre est de notre côté. Et la honte aussi. Il y a ce truc où, en fait, gars, t'as peur de moi, mais tu sais, moi aussi, j'ai peur. Mais c'est pas le même type de peur, en fait. Toi, tu as une peur qui te permet et ou que tu utilises pour dominer, pour être violent, pour rejeter, etc. Et moi, j'ai juste la peur où, à part me taire, avoir honte, fuir et prendre soin de ma santé. Et cette espèce le même terme, mais avec des choses pas du tout symétriques, en fait. Je trouvais ça hyper intéressant.
Et quand je dis la peur colle au ventre, ça va même plus loin. C'est-à-dire tout simplement d'être une cible, d'être attaqué, agressé physiquement, parce que c'est des réalités, ça existe. Ouais. Moi, quand je suis avec mon compagnon dans la rue, des fois, on a beau dire, oui, en France, tu peux exprimer, tu peux te tenir par la main, c'est OK, c'est pas comme en Asie, oulala, les gens te regardent mal. Mais moi, ça m'est arrivé de me prendre des réflexions homophobes, juste parce que je suis avec mon compagnon dans la rue. Au début, tu te dis, mais quelqu'un va réagir, quelqu'un va prendre la défense, quelqu'un va noter. Non, tout le monde rigole. Et donc, en fait, ça t'encourage encore moins à t'opposer ou à dire quoi que ce soit, parce que tu dis, le groupe majoritaire, finalement, il va dans le même sens.
quelque chose qui m'a vraiment beaucoup frappée, qui m'a... Tu vois, je parlais tout à l'heure de frissons et tout. C'est vraiment cette idée qu'en tant que jeune gay, on passe à côté d'une partie de son enfance et de son adolescence. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas, toute une palette d'expériences et d'émotions vécues à l'adolescence, les émois du corps, les émois amoureux, on regarde l'autre, on se rend compte que tiens, c'est un regard un peu différent, il y a une ambiguïté, c'est chargé. On va au collège en se disant, est-ce qu'il va être là aujourd'hui, est-ce qu'il va pas être là ? Même dans le groupe d'amis, quoi, ces trucs qu'on partage un peu, où on veut pas dire qu'on est amoureux, mais les autres, ils le voient bien, on se fait vanner un peu. Tout ça qui participe, je trouve, à la construction des adultes qu'on devient après et à l'apprentissage ou la construction de l'amour, des relations amoureuses, avec tout dedans. Je dis pas que ça se passe toujours de façon très, très rose, mais dans le livre, on voit que tout ce truc-là est potentiellement impossible quand on n'est pas hétéro, mais quand on est gay. Tu le dis très bien, tu dis dans la cour de récré, est-ce qu'il y avait d'autres garçons qui aimaient les garçons ? Je ne le sais pas, parce que de toute façon, tout le monde était caché. L'invisibilisation ou l'invisibilité, en fait, des personnes, enfin des jeunes personnes, des jeunes garçons gays dans la cour de récré, dans le collège, etc., fait que bah, y a tout un tas d'expériences qu'on ne peut pas vivre, en tout cas qu'on ne peut pas vivre dans cet environnement normal du collège, en fait, quoi. Et je ne sais pas, ça m'a fracturé, en fait, quoi, de l'intérieur de me dire ça, de me dire, mais... Ouais, il y a tout un tas de trucs que tu ne vis pas et du coup que tu vas essayer d'aller vivre en dehors, toi. Donc toi, l'alternative, ça va être, bah tiens, il y a le Minitel qui est arrivé, donc on va essayer de... Mais tu vois, et en fait, c'est juste qu'on... Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de jugement sur le fait de passer par le Minitel ou pas. Mais c'est juste qu'on change de cadre, c'est une autre expérience, c'est pas la même. Et en l'occurrence, dans ce que tu décris, c'est aussi une expérience où on saute des étapes. Ouais. Parce que tu te retrouves rapidement et sans l'avoir voulu dans un univers qui est tout de suite très sexualisé, alors que... Voilà, quand tu as 10 ans ou 13 ans, c'est pas forcément ce que tu cherchais, quoi.
Ben ouais, et alors c'est marrant que tu dis ça, parce que moi, à l'inverse, je sais même pas ce que c'est de vivre dans un environnement majoritaire. Donc pour moi, ma construction, ça a toujours été à la marge. Tu vois, c'était, je le dis un peu plus loin dans mon livre, c'était m'immiscer dans les interstices. Tu vois, c'est vraiment ça. Et puis finalement, cette expérience un peu de la majorité au collège, au lycée, où il y a les flirts, les amourettes, les machins, les petits... moi, je n'ai pas du tout ça, mais vraiment pas. C'est un truc qui est pour moi hyper exotique, vraiment. Ouais. C'est ce que j'entends, je vois à la télé, les gens qui parlent, mais ce n'a pas été mon expérience. Je ne sais pas si je peux dire heureusement, malheureusement, parce que je ne sais pas ce que c'est de l'autre côté. Mais pour moi, ce qui est problématique, en tout cas, dans ce que j'ai vécu, je ne dis pas que c'est comme ça pour tout le monde, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quand même une constante. C'est comme tu disais, en fait, la façon dont moi, j'ai été initié à la sexualité, ça a été quelque chose de très vite, très violent, tout de suite. À l'âge de 15 ans, tu vois, je fais ma première rencontre, et puis c'est un mec qui, tout de suite, essaye de me contraindre à faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Et puis, voilà, enfin, c'est... On passe tout de suite, enfin, comme tu dis, il y a des étapes qui sont certainement sautées. L'aspect séduction, l'aspect montée du désir, etc. Et je le dis même plus loin dans mon livre. Moi, j'ai l'impression à un moment que c'était même le sexe, une forme de socialisation. Pour moi, c'était comme ça. On rencontre quelqu'un, on baise et puis après, on fait connaissance. Il faut interroger cette culture du sexe, voire de la culture du viol. Parce que est-ce que finalement, ces contraintes, est-ce que contraindre l'autre, se contraindre soi, est-ce que ces espaces de rencontres qui sont soi-disant des espaces de socialisation, mais finalement, ça va bien au-delà. Et puis après, il y a aussi des lieux de drague. Hein. Enfin, bon, ceux qui nous écoutent le savent sûrement, mais voilà, on a des lieux de drague qui sont des saunas ou des espaces de rencontres pour des relations sexuelles. Mais même dans ces espaces-là, bah, la notion du consentement, elle n'est pas du tout... elle est pratiquement inexistante. C'est des gestes vraiment brusques pour signifier quelque chose. Et si la personne, elle n'est pas équipée ou elle n'est pas prête, en fait, tout de suite, on est pris dans quelque chose où le consentement n'est même pas demandé. Donc, en fait, si on arrive dedans... c'est genre on a une main baladeuse ou voire plus si on n'a pas réussi à dire non sur le coup. Et c'est hyper, pour moi, hyper problématique. Il faudrait vraiment le questionner, ça.
Moi, ça m'a fait penser à un épisode avec Jamal. C'est le fondateur d'un podcast qui s'appelle Jeans Podcast et qui parle d'amour, de genre, de sexualité dans les mondes arabes et ou musulmans. Et il dit, en fait, on vit l'amour dans la précipitation. Il dit, en fait, il y a cette précipitation où il faut aller tellement vite parce qu'on est caché, en fait. On est caché. C'est pas dans un truc où tu dis, bah écoute, aujourd'hui on boit un verre et demain on se verra. Demain il peut se passer tellement de choses. Le voisin il peut te dénoncer. Enfin, il peut se passer tellement de trucs. Donc, on est tellement dans la précipitation. Il faut faire l'amour très très vite. Et du coup, on fait très vite, mais on ne vit pas. On ne prend pas le temps de vivre l'amour parce qu'on est trop occupé à le faire rapidement.
C'est vraiment ça. C'est une culture de la consommation. Et ce que je note par contre, c'est que bah il y a aujourd'hui en fait une jeunesse qui est un contre-courant de ça. Et moi, ça me fait aussi du bien de le voir, de l'entendre. Bah en fait, il y a des jeunes qui préfèrent attendre, qui préfèrent être dans une séduction. Il y a cette série, je ne sais pas si tu la connais, qui s'appelle Hot Stopper. C'est un truc hyper cute, en fait. Il ne se passe pratiquement rien. En fait, c'est juste dans un lycée en Angleterre, des histoires d'ados qui se courtisent, ils prennent 5 épisodes pour faire leur coming out parce que c'est tellement douloureux, est-ce que je le dis, je le dis pas, 6 épisodes pour se tenir la main, 7 pour se faire un bisou. Mais c'est génial, tu vois, en fait.
Bah ouais. Je parlais de rejet tout à l'heure. Les rejets, que ce soit quand tu commences donc à rencontrer des personnes via le Minitel, mais particulièrement quand les sites de rencontres aussi arrivent, il est hyper frontal, hyper fréquent, hyper violent dans les mots. Et comme il revient souvent dans ta vie, dans tes expériences, bah, il revient souvent dans le bouquin et donc on se le prend aussi. Et donc, il y a plein d'occurrences, quoi. Il y a donc le désolé, pas branché asiatique. Le truc, ça tient en 4 mots, quoi. Vous ressemblez tous. Ça, c'est pour ceux qui ont eu, qui ont pris 2 minutes pour donner une explication. Super l'explication. Vous ressemblez tous. Vous êtes tous passifs. Vous avez des petites bites. Pas d'asiate, pas de folle. Affiché sur les profils, quoi. C'est-à-dire qu'au début, au Minitel, on te le dit peut-être, on te l'écrit. Et puis là, t'as même pas, c'est juste, tu ouvres une page et c'est déjà affiché. On prend, je trouve, en lisant la conscience de cette violence omniprésente pour quelqu'un qui va chercher justement de la rencontre et il se prend des portes. Alors, tu expliques plusieurs choses autour de ça. J'essaye de faire rapidement parce que vraiment, il faut lire le livre. Et c'est super bien posé. Tu expliques l'impensé raciste. On met ça sur le compte de la préférence. Et Dieu sait qu'en amour et en sexe, on a encore droit à la préférence. Donc chacun dit non, mais c'est juste que moi, je préfère pas les Asiates, quoi. OK. Et personne ne conscientise le fait que bah, je suis dans un système où il y a, et tu l'expliques très bien, une image de l'homme asiatique qui est dévirilisé, qui ne peut exister que quelqu'un de mou, de glabre, de soumis. Enfin, il y a tout un imaginaire, en fait, qui vient de la colonisation, hein. J'explique aussi qu'il y a peut-être un truc où le milieu gay, qui est lui-même un milieu dévalorisé, marginalisé, a peut-être besoin de validation du groupe dominant. Et donc, il caricature aussi. C'est-à-dire que si le groupe dominant dit les Asiates, les Blacks, les Arabes, c'est pas bon, bah, le milieu gay, peut-être qu'il reproduit ça aussi.
C'est plutôt que dans le milieu gay, on reprend des valeurs machistes et misogynes de la société hétéronormée, où le mâle alpha est posé comme un objet de désir. Alors aujourd'hui, c'est un peu remis en question parce qu'on est en train de commencer à comprendre que c'est un peu toxique tout ça. Mais pendant longtemps, l'image de l'homme attirant, c'est un homme viril, c'est un homme bien bâti, avec des épaules larges, des pectoraux développés. Non seulement c'est ce qu'on désire, parce que c'est ce qui est censé être attirant et valorisant, mais en plus, ceux qui s'écarteraient de cette norme, il faut soit les écarter, soit les remettre, il faut les mettre
dans le droit chemin.
Dans le droit chemin.
Je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le rejet et notamment tous ces profils sur lesquels c'est écrit « pas d'asiate ». Je trouve ça dingue. Je trouve qu'on est vraiment dans la base même de ce qui constitue le racisme, à savoir l'impossibilité d'exister comme un être humain pluriel. On est un paquet homogène. Vous, les Asiates, vous êtes comme ça. Vous, les Noirs, vous êtes comme ça. Sur les sites de rencontres et plus tard sur les applis, en fait, l'ethnicité est un critère comme les autres. C'est-à-dire qu'on peut dire, moi, je veux un chauve, je veux un grand, je veux un vieux, je veux du cuir, je veux du SM ou je veux un asiate. Ouais. C'est dans la même... Mais par contre, il n'y a pas un truc blanc. Il n'y a pas une catégorie, je veux un blanc. Parce que eux, les blancs, ils ont le droit d'être subdivisés en plein de façon plurielle. Ils ont le droit d'être cuir, SM, etc. Mais par contre, les autres, non. Les autres, ils sont juste ce qu'ils sont, c'est-à-dire cette grosse catégorie de gens qui sont plus ou moins tous les mêmes et qu'on appelle les asiates.
Moi, j'ai remarqué que c'était valable, en fait, pour toutes les sphères de la vie, que ce soit sociale, que ce soit professionnelle, dans l'entreprise, en tant qu'artiste. En fait, asiatique, c'est un label dans lequel je suis censé, moi, me retrouver. Ouais. Donc, dans le milieu professionnel, si on m'a dit « Ah, mais toi, en tant qu'Asiatique, t'es quand même assez rebelle. Hein. Tu réponds quand on parle. Comment ça se fait ?» Et puis, pareil, quand j'étais comédien, parce que j'ai été comédien pendant une dizaine d'années en France, c'était toujours ça. L'Asiatique ne peut être que l'éternel immigré ou l'expert en arts martiaux ou le serveur avec accent dans les restaurants chinois. Et voilà, c'est tout.
Premier casting, tu peux relire le script, mais avec l'accent asiatique ? Et toi qui demandes lequel ? Bah, celui que tu veux, c'est pas important. D'accord, mais juste, pourquoi le personnage parle avec un accent ? Bah, c'est humoristique, quoi, c'est de la dérision. Bon, bref, on y va, là, parce que l'heure tourne. Mmh. Voilà, je pense que tout est dit, hein. Il y a autre chose aussi que tu évoques très bien, c'est l'intériorisation justement de stéréotypes, y compris par les personnes concernées. Et tu dis, ce rejet du pas d'asiate, je l'ai aussi vécu par d'autres gays asiatiques comme moi, mais qui effectivement disaient pas de sexe entre asiatiques. Et tu dis, il y a plusieurs choses. Il y a donc le racisme intériorisé, mais il y a aussi, en France, cette peur du communautarisme. Mmh. Tu dis, pour être un bon citoyen, il faut se mélanger, se diluer, se dissoudre, mais pas avec n'importe qui. Le couple mixte est validé et valorisé quand un des partenaires est blanc, cette couleur représentant la norme et la neutralité. En plus d'être un gage d'intégration, il est aussi une marque de prestige.
C'est quelque chose qui me travaille beaucoup, parce qu'il y avait un mur. C'était vraiment presque impossible à cette époque-là, en tout cas, de sortir ou même coucher avec un autre Asiatique, parce qu'il y avait cette récurrence de propos. C'est « Ah ben non, c'est du communautarisme. Ah ben non, on n'est pas compatible sexuellement. » Ou bien « Ça serait de l'inceste. » Et en fait, j'ai essayé dans ce livre d'essayer d'analyser et de comprendre chacune de ces phrases que j'entends tout le temps. Et pourquoi, en fait, donc t'as donné une première piste qui est cette intégration républicaine à laquelle il faudrait se conformer, et que finalement, si tu fréquentes quelqu'un de ta communauté, t'es un dangereux communautariste, tu veux faire sécession, bande à part, vous êtes entre vous. Et donc, c'est pour ça, ça va plus loin quand on parle d'inceste. Et pour moi, ça, c'est pour ça que je dis que c'est grave, parce que l'inceste, c'est tout sauf drôle. Tandis que chez les Asiatiques en France, on le dit tout le temps sur le ton de la plaisanterie. Que ce soit pas seulement les gays, mais les hétéros, les hommes, les femmes, tout le monde le dit. C'est vraiment, c'est la blague.
D'accord, de dire si on sortir en Asie, enfin, je suis asiate, si je sors avec une asiate, c'est comme un inceste, c'est ça ?
Exactement. Mais tout le monde le dit. Enfin, moi, ça me sidère un peu, en fait, d'entendre ça. Au-delà du mot inceste, qui pour moi représente vraiment l'interdit ultime, en fait, le tabou de chaque société. Donc, en fait, ça veut dire qu'on pose ça comme une impossibilité.
Ben oui.
Voilà. Et pour moi, c'est ça qui pose problème. C'est comment on a réussi, en fait, en France, avec, quand je dis « on », c'est la culture, c'est les valeurs, c'est l'environnement, à nous faire croire qu'on n'avait pas la possibilité d'être ensemble. Et que ça représentait un danger, que ça représentait quelque chose de dégueulasse, enfin, comme l'inceste, tu vois, c'est quelque chose de... moi, c'est vraiment là où je me dis qu'il y a quelque chose à aller déconstruire, parce que c'est pas possible. On n'arrive pas à se considérer comme des individus. On a intégré qu'on était un groupe homogène et que dans ce même groupe, on est tous un peu des frères et sœurs, voire des clones, des reproductions des uns et des autres. Donc, il ne faut surtout pas être ensemble. Il y a une autre couche qui s'ajoute à ça, qui est l'image dévalorisante de l'homme asiatique. Tu vois, des femmes, des hommes qui vont dire « Ah non, mais jamais je sortirai avec un homme asiatique. Ouais. Mais vraiment, jamais de la vie. » Et tu te prends, enfin, t'as rien demandé, et ça tombe dans la conversation. Je le raconte même dans
un dîner,
où la phrase est dite, et puis là, à un moment, j'ai dit, bon, ça va, pourquoi, machin. Et après, ça me pose un autre problème, parce que t'as l'impression d'être le rabat-joie, le mec qui va plomber l'ambiance en mettant du politique partout.
Ouais. Alors, ça, c'est une part importante de la charge raciale, et en tout cas de la charge mentale des personnes minorisées. C'est que non seulement tu as tes propres traumas, donc en l'occurrence là, des rejets répétés que tu dois gérer, mais en plus, tu dois expliquer aux gens pourquoi ça t'a fait mal, et puis tu dois t'excuser de les avoir fait se sentir mal. Enfin, tu vois, c'est... Ouais, ça fait beaucoup de boulot, quoi. Là, dîner comme ça, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'alcool, parce que sinon, ça commence à être compliqué. À un moment, tu pars vivre à Singapour et tu dis que ça te fait tout drôle de voir des Asiatiques qui occupent tous les postes, donc tous les métiers. Tu dis du policier à l'animateur d'émissions télévisées, en passant par les boueurs. Est-ce que pour un Français d'origine asiatique, aller ou repartir en Asie, c'est une forme d'Eldorado de ce point de vue-là ? Est-ce que la charge raciale, tout à coup, s'abaisse ou s'évapore ?
C'est simplement la façon dont on arrive à se projeter. En fait, juste soi, dans différents comment dire, dans différents corps de métier, dans différentes possibilités, tout simplement. C'est vrai que quand j'ai grandi en France dans les années 80-90, la représentation des Asiatiques dans les médias était extrêmement minoritaire et le plus souvent caricaturale. Donc, moi, je n'avais pas de référence. Mmh. Donc, il fallait que je transpose et que, que finalement, le blanc devenait la norme à laquelle je pouvais essayer d'imaginer ce que je pouvais être, mais à travers des corps qui ne me ressemblaient pas forcément. Donc, j'ai toujours fait cet exercice sans même me dire que c'était un exercice. Mmh. Mais c'est vrai que quand j'arrive à Singapour, en fait, c'est là où je me rends compte que il n'y a pas à faire cet exercice. En fait, quand l'environnement il est comme ça autour de toi, en fait, ça devient automatique. C'est que tu peux t'imaginer en faisant tout parce que tout existe autour de toi. Hein. Quand j'étais plus jeune, je voulais être chanteur et tout. On me fait « Non, mais attends, t'as déjà vu des chanteurs asiatiques, toi, en France ?»
Je trouve que cette question, elle est à la fois... Elle est terriblement violente, mais elle est extrêmement réaliste, en fait. Et elle pose la question de l'importance des représentations. Si personne ne te ressemble, comment tu veux que toi, et même tes parents, tes cousins, tes oncles, tes tantes, imaginent qu'un jour, tu puisses faire ce métier et avoir cette trajectoire.
Ouais.
Alors, je t'ai demandé tout à l'heure si c'était un Eldorado.
Ouais.
Il y a quand même des choses que ça ne débloque pas, ou en tout cas d'autres choses que ça fait qu'on voit naître. Et notamment, les lignes raciales, elles restent quand même présentes. Il y a un moment où tu as un compagnon blanc, à Singapour, et donc bien que tout le monde te ressemble, ce que tu as dit, et que quand tu es au milieu des autres personnes asiatiques, effectivement, tu peux être qui tu veux, mais quand tu es à côté de ton compagnon blanc, le traitement, c'est très clair, quoi. Dans les aéroports, c'est toi qu'on va fouiller, quand on donne le menu, on lui donne à lui, toi, on te regarde à peine, et donc ce truc-là, tu as beau être, tu vois, dans un des suds de la planète, en fait, ces lignes raciales et ces racismes intériorisés, ils continuent d'exister quand même.
En fait, les questions raciales, elles vont s'immiscer malgré soi. Et nous, on a beau vouloir juste être un couple qui est là avec ses histoires de couple, etc. En fait, c'est l'extérieur qui te renvoie à ce truc-là de couple mixte. Et en plus, avec toute la charge qu'il y a avec, c'est-à-dire la projection de qui a quel rôle, qui a quelle situation financière, qui a suivi qui fait quoi au lit. Non, mais voilà, malgré soi, qu'on le veuille ou non, on est toujours un peu exposé à ça.
En fait, faire partie du groupe dominant, c'est aussi avoir droit à l'anonymat.
Mmh.
Et en fait, quand on est une minorité visible, on rêve d'anonymat. On rêve de pouvoir parler d'autre chose. Non, mais tu vois, c'est des questions que je me suis beaucoup posées. Je me suis dit, donc là, tu travailles sur la diversité et l'inclusion. Tu ne pouvais pas faire autre chose. Enfin, je veux dire, là, tu es une femme noire qui va parler de racisme en entreprise. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire d'encore plus attendu, quoi. Mmh. Tu vois, et oui, en fait, parfois, on rêverait de parler d'autre chose, que ce ne soit pas un sujet du tout. Mmh. Mais c'est parce que c'est un sujet qu'on nous renvoie à ça.
De façon paradoxale, faire partie du groupe majoritaire, c'est là où je me suis rendu compte que toutes les spécificités ressortaient. Alors qu'on a l'impression qu'on va être, comme tout le monde, mais en fait, non. En étant comme tout le monde, c'est là où on devient des individus.
Oui.
Et après, par contre, quand bien même ces questions-là, sont moins présentes parce que c'est pas... on fait partie d'un groupe majoritaire ethniquement. Par contre, ça n'enlève pas les autres rapports de pouvoir ou déséquilibrés qui peut y avoir par ailleurs. Et ça, je le dis aussi dans mon livre, au Cambodge, là où je vis, dans mes rapports avec les garçons, c'est pas parce qu'on est soi-disant de la même ethnie qu'on est tous égaux, tous pareils. Non, en fait, là, il y a tous les autres, les rapports déséquilibrés qui se remettent en place. Exactement. Sur le colorisme, sur la situation sociale, le niveau d'études. Enfin, voilà, faut pas croire que ça annule tout.
Bien
c'est
sûr,
pas vrai.
Tout à fait. Effectivement, le colorisme, la classe sociale qui viennent jouer, qui viennent traverser aussi les rapports interpersonnels. Et puis même la culture. C'est-à-dire que quand bien même on serait tous cambodgiens ou d'origine cambodgienne, toi, tu es français aussi et d'abord, j'ai envie de dire. Et donc, il peut y avoir des petites nuances avec des personnes cambodgiennes là-bas où vous allez vous rendre compte que en fait, non, on ne parle pas exactement de la même chose. Ah là, tu ne m'as pas compris, là, je ne t'ai pas compris. Et donc ça vient aussi traverser les relations qu'on a avec les autres. Ce n'est pas juste parce qu'on a plus ou moins la même tête que c'est bon, tout est effacé, quoi. Ça va de soi, mais ça va mieux en le disant. Bon, je vois l'heure, donc je vais passer rapidement. Mais c'est bien parce qu'il y a plein de choses que tu as quand même dites ici ou là. Et puis de toute façon, l'objectif, c'est quand même que les gens comprennent que ce bouquin il est génial et qu'il faut aller le lire. Non, mais parce qu'il éclaire la société dans laquelle on vit sur plein de choses. Et donc, voilà, il faut aller le lire. Donc, si on vous dit tout, les gens, vous n'allez plus aller. Donc, on ne va pas tout vous dire. Je vais faire un grand bond dans le temps. Août 2016. Zhang Shaolin, un tailleur chinois trouve la mort parce qu'il a été agressé à Aubervilliers. Et ça, ça va déclencher en France les premiers discours collectifs, les premières même manifestations, hein, donc vraiment les premiers mouvements collectifs de communautés françaises d'origine asiatique qui disent mais on est là, on veut que vous nous regardiez, on veut que vous nous entendiez, on veut que vous écoutiez aussi la violence qui peut se réaliser à notre rencontre et qui est basée sur des stéréotypes. On veut que vous arrêtiez de nous cantonner à un statut de minorité modèle qui ne fait pas de bruit, parce qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on ne fait pas de bruit qu'il ne se passe rien. Et puis d'ailleurs, si on a envie de faire du bruit, on peut aussi.
Pour moi, la première réaction, c'est de la tristesse, en fait. C'est de me dire, on est arrivé à quelque chose qui, pour moi, était inévitable, finalement. D'accord. Parce que tu disais que c'était les premières manifestations, mais en fait, il y en a eu avant. Ce problème-là, d'accord, il existait déjà avant. À Belleville, en 2010, 2012, il y a eu des manifestations, mais c'était complètement... c'est inaudible, enfin, c'était pas du tout relayé par les médias, tout le monde s'en fout. Il y avait déjà des collectifs, il y avait déjà des manifestations, il y avait déjà une tentative de dialogue avec des élus pour dire il y a un problème. En plus, les gens, certains ne maîtrisent pas le français parce qu'il s'agit pour certains de primo-arrivants qui n'ont pas encore les codes, qui ont peur parce que certains sont dans des situations administratives délicates. Donc tout ça n'encourage évidemment pas une prise de parole publique, n'encourage pas à les porter plainte. Donc finalement, il y avait un truc un peu comme ça, un peu latent. Et puis c'est ça aussi qui, en face, favorisait ça en disant, de toute façon, on peut les cibler, eux, ils diront rien.
Oui.
En plus, il y a ce fantasme que les Asiatiques se baladent avec plein de caches sur eux, c'est des cibles faciles, ils sont non-offensifs.
Ils ne se défendent pas.
Ils ne se défendent pas. Alors, c'est marrant parce que tu as les deux extrêmes. Tu as l'expert en arts martiaux et puis le mec inoffensif.
Tu as cette phrase à peu près à ce moment-là, ce momentum dont on est en train de parler, l'assassinat de ce monsieur. Je prenais soudainement conscience d'une chose, nous n'étions pas tant une communauté ethnique qu'une communauté d'expérience due à la manière dont cette ethnicité était perçue. Ce que on va retrouver qu'on a en commun avec les autres, c'est pas tellement d'avoir des origines, des parents ou des grands-parents asiatiques, c'est le fait qu'on projette sur nous ces origines-là. Et on le projette sur nous tous et nous toutes de la même manière. Et c'est ça qui fait qu'à un moment, on devient une communauté. Je trouve ça hyper important de le dire, et c'est très bien formulé, je trouve.
En parlant avec d'autres personnes gays d'origine asiatique, on a tous traversé ces trucs-là, mais on n'en parle pas parce que c'est un peu honteux, c'est un peu... on met ça sur la blague, c'est drôle, c'est léger. Puis on n'a pas trop envie d'exposer ces violences-là dans des moments légers avec des potes. Et finalement, en commençant à en parler, on se dit « Ah ben, c'est quelque chose de récurrent, c'est quelque chose de plutôt de structurel, de systémique. » Et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, on en revient, tu vois, sur l'urgence. À travers mon expérience, c'est finalement... pointer ces expériences-là qui sont aussi vécues par plein d'autres personnes, mais dont on ne parle pas, parce qu'on a l'impression que c'est que soit dans son coin, mais finalement, on n'est pas le seul à le vivre. Et je pense que ça peut aussi faire du bien de le lire, de se rendre compte que ce qu'on a l'impression de porter sur ses épaules, c'est que ça ne nous arrive qu'à soi, mais finalement, c'est peut-être un problème plus sociétal, plus structurel, et c'est aussi sur ça qu'il faut travailler.
Dans l'épisode avec Jamal, il évoque une interview de Fatima Das et il lui dit à un moment dans l'interview, donc Fatima Das, on est d'accord que tu n'es pas la seule Française d'origine nord-africaine qui soit lesbienne. Et il dit, elle éclate de rire quand je pose cette question et juste après elle fond en larmes.
Ah ouais.
Et elle lui dit, bien sûr que non, mais en fait je croyais que si. Et cette question du vécu dont on a l'impression qu'on est le seul ou la seule, jusqu'au moment où, parce que quelqu'un a raconté cette histoire, on relit avec d'autres personnes et on se dit « Ok, en fait, je fais partie effectivement d'un système, mais je fais partie d'une communauté d'expérience, pas de destin. On se réapproprie les destins et il reste individuel, mais une communauté d'expérience, c'est hyper important, c'est déterminant, et aussi dans la question des représentations dont on parlait tout à l'heure.
Ce livre-là, pour moi, est quelque chose d'assez inédit. Parce que, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres livres qui parlent en fait de ces questions-là d'un point de vue d'une personne concernée gay d'origine asiatique. Mais évidemment, j'espère qu'il y en aura d'autres et j'espère que certaines personnes qui vont lire le livre, ou en tout cas, ça va donner envie à d'autres personnes de raconter leur expérience, leur histoire, de le faire de façon différente, de faire, je ne sais pas, des livres, des films, des podcasts. En fait, c'est ça aussi, la représentation, elle commence à se créer lorsqu'il y a plusieurs modèles possibles. Mmh. Donc moi, je ne veux évidemment pas être le modèle, la référence. J'espère, à mon humble niveau, contribuer à créer quelque chose, mais évidemment qu'il y aura du relais derrière et que d'autres personnes vont s'emparer de la question et également créer à leur tour.
Ça ressemble beaucoup à une conclusion, mais tu ne partiras pas comme ça. Tu sais qu'il y a une question rituelle, tu sais. Le livre, tu l'as très bien dit, raconte ton parcours de vie, et bien plus que ça, puisque tu prends le temps de l'analyser, ce parcours de vie, et de le remettre à une lumière plus collective. Mais on suit ton parcours et on suit aussi l'évolution de la société en parallèle. Hein, on suit les évolutions technologiques aussi, le Minitel, le site, les applis. aujourd'hui, après ce livre, après ce parcours, qui es-tu devenu ?
Il y a des choses pas très joyeuses, pas très réjouissantes que j'aborde dans mon livre parce que je pense que c'est important aussi de regarder ses propres failles, de regarder ses propres biais, ses propres contradictions. Mais j'assume tout. Tu vois, j'assume tout. Je suis cette personne-là avec toutes ces failles. Je suis faillible. Je suis un être humain. Je ne peux pas être tout le temps intègre, parfait dans un modèle d'intégrité. Non. Ben voilà, je suis cette personne-là qui pour moi, cherche. Échoue, va dans des impasses et puis essaye tant bien que mal de, comme je disais dans mon livre, d'habiter ma peau et c'est déjà beaucoup.
Et c'est déjà beaucoup et tu le fais très bien. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui liront ça et que j'espère ça inspirera et comme tu disais que ça poussera aussi à raconter leur propre histoire et tracer leur propre chemin. C'est hyper important. Merci beaucoup Jean-Baptiste.
Merci à toi.
Merci infiniment d'être venu.
C'est une super interview. Merci.
Et bah écoute, merci. J'espère que l'épisode vous a plu. Vous pouvez vous abonner à la newsletter, mais vous pouvez aussi me contacter pour une conférence ou un atelier dans votre entreprise. Ce sera comme ici, c'est-à-dire apaisé, nuancé, constructif. À bientôt !